Et voici le journal présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Les Américains répliquent au tir de roquette qui a tué un civil en Irak ce week-end. Ils ont envoyé hier soir des missiles contre des positions iraniennes en Irak. Nous analyserons ces représailles meurtrières dans un instant.
Vous comprendrez ensuite pourquoi un appel à manifester est lancé ce lundi au Liberia. 2 ans après l'élection du président George Weah, la misère et la corruption n'ont pas disparu dans le pays.
Il est aussi et toujours question de manifestations en France ce lundi. Contre la réforme des retraites, la grève perdure. Parole de cheminots dans ce journal.
Et puis nous nous pencherons sur l'utilisation de pesticides dans les stades sportifs. Une pétition demandant leur interdiction vient d'atteindre le 1 million de signatures.
Dans un gros quart d'heure enfin, nous retrouverons le billet politique de Frédéric Seyss en compagnie d'un invité à l'aube de l'année 2020. Ce matin, il sera question des élections municipales prévues en mars prochain. C'est un conflit qui se joue sur un pays tiers. Les États-Unis et l'Iran continuent de s'affronter en Irak. C'est là que Washington a ordonné hier soir des frappes, des représailles après la mort vendredi soir d'un Américain au nord de Bagdad, touché par un tir de roquette. La Maison-Blanche accuse le Hezbollah irakien et envoie donc des missiles. Au moins 19 combattants sont morts, Loïc Lory.
Les frappes ont été un succès, affirme le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, qui n'exclut pas, dit-il, d'autres actions si nécessaires. Depuis 2 mois, les États-Unis sont la cible de milices armées pro-Iran en Irak. Plusieurs bases ont été visées, abritant des soldats ou des diplomates américains jusqu'à l'ambassade située dans la zone verte de Bagdad. Vendredi soir, la dernière de ces agressions, toutefois, a marqué un tournant, près de 40 roquettes lancées et surtout la mort d'un sous-traitant américain. Washington a donc répliqué hier face à ces factions armées proches de Téhéran. Au moins 19 morts dans 5 raids menés notamment en Irak. Des frappes qui ont visé des installations de commandement ou encore des caches d'armes. Quelques heures plus tard, 4 roquettes s'abattaient à nouveau près d'une base où stationnent des militaires américains. Des affrontements qui interviennent dans un pays en crise sociale et politique et où Téhéran ne cesse de renforcer son influence. Mais la réplique militaire de Washington ce dimanche tente à montrer que la Maison-Blanche ne compte pas se laisser faire. L'Irak, impuissant, ne peut qu'observer l'affrontement sur son sol entre ses deux alliés.
L'Irak touché donc ce week-end. La Syrie également, visée par les Américains sur 2 sites, notamment sur des dépôts de munitions et des centres de commandement du mouvement chiite. La Syrie, où nous nous rendons maintenant grâce à un reportage rare venu de Raqqa, ancien fief du groupe État islamique. Raqqa, occupée pendant 4 ans, libérée il y a 2 ans. Raqqa, aujourd'hui envahie de charniers que l'équipe de défense civile découvre au fur et à mesure de ses recherches. Les corps de 2500 victimes de Daesh sont toujours recherchés. Il faut donc déterrer les dépouilles, puis les identifier. Un travail dur, fastidieux, suivi pour nous par Noé Pinged.
Au milieu d'un champ brumeux, une 20aine d'hommes exhument des victimes de l'organisation État islamique. C'est le 34e charnier à être découvert depuis la libération de Raqqa. Une 100aine de corps seraient encore enterrés ici, sous nos pieds. Pour Abou Ahmed, un masque chirurgical sur le visage, ce travail est avant tout un devoir moral.
Nous devons déterrer ces corps pour leur donner une sépulture digne, car ils ont été enterrés sans suivre le rite musulman. C'est le travail le plus dur qui soit. Les cadavres, l'odeur de la mort, psychologiquement c'est dur. La nuit, j'ai peur, je fais beaucoup de cauchemars. Nous travaillons avec la mort, elle nous tue à petit feu.
Devant nous, emballés dans une bâche blanche qu'ils sont en train d'ouvrir, il y a un corps en décomposition avec des vêtements militaires. Le corps n'a plus de tête. Il a probablement été décapité par les djihadistes de l'organisation État islamique.
On prélève des échantillons, le radius, des poils et ses vêtements.
Le docteur Mahmoud Hassan, 61 ans, devrait être à la retraite. Il est l'un des 2 seuls médecins légistes de Raqqa.
Aucun médecin ne veut faire ce travail. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Notre mission est essentielle pour que la vie reprenne à Raqqa. Il faut nettoyer la ville de ses morts.
Deux ans après la libération de l'ancienne capitale du groupe État islamique, près de 5000 cadavres seraient encore enfouis dans la région.
C'était un reportage de Noé Pinged, envoyé spécial de RFI en Syrie. La piste n'est pas encore confirmée, mais Donald Trump, lui, l'affirme. Il s'agit d'une attaque antisémite. Un fléau qu'il faut éradiquer, dit-il, deux jours après une tentative d'homicide chez un rabbin près de New York. Un homme a blessé à l'arme blanche 5 invités d'une fête juive lors des célébrations de Hanouka. Il a été inculpé hier soir de 5 chef d'accusation pour tentative d'homicide. Lui vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme en Chine. Il s'agit du chercheur chinois qui avait provoqué l'année dernière un scandale planétaire en mettant au monde les premiers bébés génétiquement modifiés. Le gouvernement chinois avait à l'époque été accusé de laxisme. Le tribunal de Shenzhen vient donc de le condamner pour avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction. Elles veulent défier le pouvoir et le mettre devant ses contradictions. Au Libéria, des associations de la société civile appellent ce lundi à manifester. 2 ans après l'élection de George Weah à la tête du pays, elles estiment que les conditions de vie ne se sont pas améliorées pour les Libériens, que les promesses de l'ancien footballeur devenu chef d'État ne se sont pas réalisées. Ces associations seront donc dans la rue aujourd'hui et elles ont un soutien de poids, Nadine Epstein.
Apparemment, c'est sous pression des États-Unis que les autorités du Libéria ont fini par accepter la tenue de la manifestation d'aujourd'hui. La protestation est organisée par une dizaine d'associations regroupées dans le Conseil des Patriotes, soutenues par les partis politiques d'opposition. C'est la 4e grande mobilisation anti-Weah depuis le mois de juin. George Weah avait été largement élu sur son programme en faveur de la jeunesse pauvre et ses promesses de lutte contre la corruption et de reconstruction du pays. Pour attirer les bailleurs de fonds étrangers, le président libérien a multiplié ses déplacements en Afrique et en Europe et s'est rendu par exemple en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Maroc, au Sénégal, au Burkina Faso et en France. Ouvrir le pays et encourager les investissements n'évite pas pour autant au nouveau président d'essuyer bon nombre de critiques. Ses adversaires l'accusent de népotisme et de trafic d'influence et ont fait descendre dans les rues des milliers de citoyens en juin, puis en juillet et en septembre, ce sont 10 000 professionnels de la santé qui faisaient grève pour exiger le paiement de leur salaire.
C'est pour avoir de meilleures perspectives d'emploi que certains font grève en Allemagne cette fois. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi inclus, le personnel de cabine de la compagnie Germanwings est appelé à se mobiliser. Le dialogue social, tant vanté en Allemagne, y est en effet dans une impasse en ce moment et les conséquences sont non négligeables, Ludovic Piétonu.
C'est une grève qui se voit. Germanwings assure énormément de liaisons à petit prix à l'intérieur du pays. L'annonce de ce mouvement social vendredi a contraint, le temps d'un week-end, des milliers de passagers à réorganiser leur voyage de fête. Cela touche aussi plus de 170 vols d'une autre compagnie, Eurowings, qui utilise 30 appareils de la flotte Germanwings, que la maison mère Lufthansa veut fusionner au sein d'une seule et même entité. Mais les négociations entre la direction et le syndicat UFO n'ont jamais vraiment commencé, tant la relation est dégradée et c'est peu de le dire, UFO menace déjà d'entraîner les salariés des 4 filiales du groupe Lufthansa tout entier à cesser le travail après le 2 janvier, comme il l'avait fait en guise d'avertissement il y a 2 mois déjà, causant une belle pagaille pendant 48 heures dans les aéroports allemands. Ce dossier Germanwings et plus largement Lufthansa est le parfait contre-exemple du bon dialogue social à l'allemande dans un pays où les syndicats et les entreprises fonctionnent plus comme des partenaires. Mais là, le désaccord est profond entre la direction et UFO, ce syndicat qu'elle a même traîné devant les tribunaux, considérant qu'il n'était plus légitime. La direction avait fait valoir un conflit de personnes à la tête de ce syndicat, mais le tribunal n'a pas été dans son sens et cette stratégie n'a visiblement fait qu'empirer les choses. Un médiateur a dû être nommé. Tout l'édifice du dialogue est à reprendre depuis le départ, la confiance en moins. On n'avait pas vu ça depuis longtemps en Allemagne où le droit de grève n'est exercé qu'en tout dernier recours, mais qui prouve, contrairement à ce qu'on a pu lire chez certains éditorialistes de la presse ici outre-Rhin abondamment ces dernières semaines, que la grève n'est pas seulement un levier purement français.
Et en France, justement, la grève, elle continue.
Et à 8h09, Clara Lecoq-Réal, nous nous y attardons, justement, sur France Culture. Le ton se durcit entre le gouvernement et la CGT.
Le premier accuse en effet l'autre de mener un syndicalisme de blocage. Ce sont les mots du secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari. La CGT, elle, reproche à l'exécutif de miser sur un pourrissement de la situation. Aucune négociation n'est prévue avant mardi prochain, dans une semaine. D'ici là, donc, la grève continue, surtout chez les cheminots. 26e jour consécutif. Dans différentes gares de France aujourd'hui, des assemblées générales vont se tenir pour voter la reconduction de ce mouvement. Ce sera le cas a priori devant la gare des Aubrais près d'Orléans. La question est maintenant de savoir comment renouveler le mouvement pour qu'il dure un peu plus. Écoutez à ce propos Jérôme, conducteur de train à Orléans depuis 3 ans.
On ne peut pas perdre de l'argent depuis le 5 décembre et venir avec le sourire tout le temps. Donc je pense qu'on va essayer de trouver de nouvelles idées. On a fait le Noël des grévistes. Il faut qu'on arrive à rassembler les gens, il faut qu'on aille voir les usagers, il faut qu'on aille voir tous les secteurs privés, publics. La dernière fois, on a fait une grosse action sur un rond-point. On a essayé de discuter avec les gens qui étaient dans le bouchon. Donc certains étaient mécontents, je le conçois, quoi. Mais après, s'ils ont des idées d'action pour que ça marche, autre que bloquer les trains, nous, on est preneurs. On est prêts à mettre un simulateur au milieu de la gare. Et ils verront si ils vont gagner de l'argent avec la nouvelle retraite par contre. Il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'ils nous soutiennent.
Des propos recueillis par Marine Protet de France Bleu Orléans pour France Culture. Alors comment ce mouvement va-t-il, peut-il durer? Stéphane Genest a posé la question à Stéphane Sirot, historien spécialiste des syndicats et des conflits sociaux. Voici sa réponse.
On est manifestement au point mort, chacun pour le moment campe sur ses positions. C'est vrai de la part des organisations syndicales, c'est vrai de la part aussi du gouvernement. Donc le bras de fer, il est sans doute aujourd'hui ou presque à son paroxysme. Ce qui pose problème, notamment, c'est cette incapacité manifeste des différents acteurs, à commencer, me semble-t-il, par le pouvoir politique, parce que c'est forcément de lui que le geste crucial pourrait venir. On ne voit pas ce geste venir. Donc au bout de quasiment un mois de conflit, du côté des syndicats, l'enjeu est de parvenir à maintenir une mobilisation significative. Du côté du gouvernement, l'impératif va sans doute être à la rentrée, notamment avec les réunions qui se profilent à partir du 7 janvier, d'attirer vers lui les syndicats les moins réfractaires. Et donc, on peut tout à fait se retrouver à l'orée de la journée de mobilisation du 9 janvier dans une situation qui serait totalement bloquée. Rien ne dit que les choses ne vont pas rebondir et que par ailleurs, le gouvernement n'aura pas le plus grand mal à éteindre la mobilisation.
Et à 36 heures des vœux d'Emmanuel Macron, les grévistes sont donc toujours mobilisés dans les transports surtout. Aujourd'hui à la SNCF, il y aura un TGV sur 2 en moyenne, 4 TER sur 10, un intercité sur 4. En Ile-de-France, la RATP prévoit une nette amélioration avec 14 des 16 lignes de métro partiellement ouvertes aujourd'hui, mais seulement le matin et en fin de journée. Décembre 2019, une nouvelle page de l'histoire sociale est-elle en train de s'écrire? Nous reprendrons la discussion avec Benoît Bouscarel et l'invité des matins de France Culture, l'historien Gérard Noiriel. Ce sera à partir de 8h20 tout à l'heure. Au chapitre des grèves encore, notons cette assemblée générale prévue en début d'après-midi à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne, à l'est de Melun. Les salariés doivent se prononcer pour ou contre la poursuite du blocage des expéditions et s'ils reconduisent leur mouvement, cela engage la raffinerie vers un arrêt total de la production. Elle décrit dans son livre Apparaître jeudi une relation sous emprise d'une jeune fille de 14 ans avec un quinquagénaire. Lui défend aujourd'hui la beauté de cette relation. La polémique continue autour de l'écrivain Gabriel Matzneff, attiré par des mineurs et notamment par Vanessa Springora dans les années 80. Il parle d'attaques injustes. Quand le ministre de la Culture, Franck Riester, apporte son soutien à toutes les victimes, il rappelle que l'aura littéraire n'est pas une garantie d'impunité. Venons-en maintenant à cette pétition qui vient tout juste de passer le million de signatures, celle de l'association Nous voulons des coquelicots. Elle demande la suppression des pesticides de synthèse et notamment sur les stades de football principalement. La question est déjà posée dans le milieu sportif, Dounia Mayedine.
Le pissenlit, la pâquerette ou le trèfle rouge empêchent-ils vraiment de jouer au foot? Les complexes sportifs ont déclaré la guerre aux mauvaises herbes afin de préserver une bonne qualité des pelouses. Pour cela, ce sont des pesticides de synthèse qui sont utilisés, mais qui ne sont pas sans danger. Dans une tribune publiée dans le journal Libération en 2018, des médecins et chercheurs ont alerté sur l'emploi de ces fongicides. Leur inhalation peut provoquer des cancers ou des maladies telles que Parkinson. Pour François Vaillerette, membre de l'association et président de Génération Future, les pesticides doivent au minimum être bannis des terrains sportifs.
Peut-être que pour la Coupe d'Europe ou le championnat du monde, on veut bien entendre qu'il faut avoir un gazon qui soit à la perfection. Mais après, pour tout le sport populaire, amateur, etc., il n'y a pas nécessité d'avoir une telle perfection des gazons. Et dans un premier temps, au moins, faire en sorte que les terrains amateurs et de sport populaire soient gérés sans pesticides de synthèse. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains clubs où, finalement, l'entretien se limite à tonte, un peu soigné, à du roulage. Et voilà, on ne fait pas du sport pour s'exposer à des produits dangereux. On fait du sport pour tous les bienfaits qu'il procure, notamment au niveau sanitaire.
Après un an de test en 2010, la ville de Rennes a renoncé au traitement phytosanitaire sur la totalité de ses terrains de sport, à l'exception du stade Rennais où joue l'équipe de Ligue 1, comme l'explique Daniel Guillotin, élu à l'écologie urbaine de la ville.
Depuis 1997, on avait déjà arrêté l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces verts de la ville. Et donc, d'un point de vue santé, c'était de se dire il faut qu'on aille plus loin, de regarder aussi côté terrain de sport. On souhaite, notamment en plein hiver, cette période qui est très humide, on joue moins sur le terrain parce que ça va le dégrader. Ça demande plus de moyens, plus de temps en termes d'entretien.
Et cette question des pesticides sur les terrains de sport a fait l'objet d'un colloque au Sénat en novembre dernier, durant lequel a émergé la perspective d'une proposition de loi en 2020 afin de les interdire.
C'était Dounia Mayedine pour France Culture. Des milliers d'Australiens et de touristes sur place sont contraints aujourd'hui d'évacuer une partie de l'état de Victoria au sud-est du pays, en Australie donc. Les températures caniculaires et les rafales de vent attisent les feux de forêt, des incendies qui ont déjà ravagé plus de 4 millions d'hectares de forêt dans le pays. 8 personnes y sont mortes ces dernières semaines. Les nuages bas du matin devraient s'estomper au fil de la journée en France métropolitaine, avec de belles éclaircies prévues cet après-midi. Le tout sous des températures qui se rafraîchissent. Il fait moins 1 degré ce matin à Strasbourg, 1 seulement à Lille, Bordeaux et Lyon, 2 degrés à Paris, 4 à Bayonne, 9 degrés à Marseille. Benoît.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.